Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité que je vous présente tout de suite. Daniel Jankowski, bonjour.
Oui, bonjour Yannick.
Merci à vous d'être venu, d'avoir parcouru quelques kilomètres pour être avec nous ce matin devant le micro de Wagon Livre. Alors, nous vous avions reçu il y a 2 ans pour une émission qui avait été diffusée le 20 septembre 2017. Et c'était pour déjà un épais roman intitulé « Seigneur et rebelle en Morvan ». Vous revenez sur le devant de l'actualité avec encore un volumineux roman, d'ailleurs, vous écrivez toujours de volumineux romans, Daniel.
C'est-à-dire que ça dépend, non ? Là, il se trouve, il s'agit aussi du destin de 2 femmes, donc il est fatalement plus épais que les premiers volumes. Non, mes premiers romans, on n'était pas spécialement volumineux, mais là, voilà, ça se trouve comme ça, c'est au gré de l'inspiration.
Votre dernier roman a pour titre « La fontaine du Leu ». Et il est disponible en librairie aux éditions Gunten. Un petit mot sur cette maison d'édition, Daniel ?
Ben, disons que c'est une petite maison d'édition qui se situe à Dole, dans le Jura. Bon, ma foi, c'est fort sympathique et cette maison d'édition donne sa chance à de nouveaux auteurs. Bon, j'ai regardé en septembre, là, il y a encore 3 ou 4 nouvelles publications. Donc, c'est une maison d'édition que je trouve fort dynamique, ma foi. Voilà, dans l'ensemble, il y a toujours de nouveaux romans chaque année. C'est bien.
Comme je le disais en introduction, vous n'en êtes pas à votre premier roman. En fait, l'aventure de l'écriture a commencé en 2012 avec Le Cavalier de Cœur, toujours chez Gunten. Hein. C'est éditeur qui vous suit. Et c'est une maison d'édition à laquelle vous restez fidèle.
Oui, disons que je reste fidèle à cette maison d'édition parce que je reconnais que je n'ai pas toujours bon caractère et que je n'aime pas être contrariée. Bon, quand j'ai un projet, j'aime bien finalement qu'il soit fait selon mes désirs. Mais enfin, j'ai toujours des idées très précises. Et en fait, je suis tombée sur un éditeur très... très cool, qui me laisse choisir. Quand il y a des modifications au niveau de mon texte, tout ça. Maintenant, j'ai pris aussi une certaine liberté pour les couvertures et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Gunten à Dole.
Voilà. Alors ensuite, il y a eu Les Ombres de Louis Prunel, 2 tomes. Les Ombres de Louis Prunel, donc en 2013. En 2014, La Brilleuse. Et puis donc, le roman... médiéval, dont nous avions parlé en son temps, donc il y a 2 ans, à bord de cette émission, Seigneurs et rebelles en Morvan, où là encore, les femmes, la condition féminine semblent être, je dirais même pas semblent, sont des thèmes auxquels vous êtes particulièrement attaché, parce que dans le dernier roman, il est aussi question de conditions féminines. Les femmes, le respect de la nature... la délicatesse, le soin que l'on apporte aux animaux, c'est une constante dans vos textes.
Oui, tout à fait. Ce sont des thèmes récurrents parce que je trouve que la condition féminine, vous voyez, on passe du Moyen-Âge, donc c'était le XIIIe siècle pour seigneurs et rebelles. Maintenant, au XXIe siècle, bon, il y a une évolution, certes, mais les violences existent encore et je trouve qu'elles sont parfois... C'est impressionnant et j'ai envie de dénoncer tout ça. Et je trouve aussi qu'au niveau des animaux, hélas, on n'a pas fait toujours tous les progrès qu'on aurait dû faire au niveau du respect et tout ça et de la façon de les traiter. Hélas, quelquefois, j'ai une impression pessimiste. Il me semble que c'est un petit peu lié au genre humain, je ne sais pas. Voilà.
Daniel Jankowski, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. C'était au Salon du Livre de Blanzy, en Saône-et-Loire. Mmh. Et en fin de compte, dans les salons du livre, vous en faites plusieurs en Bourgogne. Il y a ceux qui sont auto-édités, il y a ceux qui ont un éditeur. Vous considérez que vous avez de la chance d'être édité par une maison d'édition, disons, de province? Vous avez tenté d'autres maisons d'édition? Je pense les Presses de la Cité, par exemple, qui a une collection de romans de terroir.
Non, pas du tout. C'est vrai que, bon, je vous dis, on a des rapports relativement cordiaux, donc avec cet éditeur, ça fonctionne bien, donc je ne me pose pas de questions. Moi, j'ai envie d'écrire, j'ai pas tellement envie de passer du temps à faire des recherches, parce que je pense que ça doit être quelque chose de fastidieux. Et voilà, quand il faut envoyer des manuscrits à plusieurs maisons d'édition, je pense que ça doit... Oui, c'est sûrement une démarche un petit peu, peut-être pas difficile, mais qui demande de l'attente. Donc pour l'instant, c'est facile, je me contente de cette solution de facilité. Voilà.
Le roman que j'ai qualifié de médiéval, et s'en est un, Seigneurs et rebelles en Morvan, vous avez demandé tout de même de farfouiller dans l'histoire médiévale du Morvan. Enfin, vous aviez essayé à... rester respectueuse de la vérité historique. Avec La Fontaine du Leu, vous avez bénéficié de plus de liberté, ou il y a des éléments dans La Fontaine du Leu, donc votre dernier roman dont on va en parler, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez piochés dans l'histoire locale?
Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'avant de... Enfin, je pense qu'il y a une certaine honnêteté intellectuelle qu'il faut respecter. Quand on fait un travail qui a un cadre historique, quand il y a des références historiques, je préfère toujours relire, faire des recherches et travailler, si vous voulez, en même temps, mes personnages, tout ça, mais toujours vérifier. C'est quelque chose de très important. Et là, je me suis référée à deux ouvrages essentiels. Donc, c'est Jacques Canot, Les Maquis du Morvan, et aussi le livre de Monsieur Vigreux, Marcel Vigreux, Le Morvan pendant l'occupation allemande, enfin pardon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est ce travail, et voyez, pour certaines choses aussi, certains mots de patois, puisque j'abordais quand même le monde paysan, là je me suis référée à un notable de la société éduenne, Eugène de Chambure, qui avait fait toute une recherche, c'était très à la mode à cette époque-là, au 19e siècle, dans le cadre de la société éduenne à Autun. Donc, on faisait des recherches un petit peu pointues, donc sur la linguistique et notamment donc le patois morvandio. Ça, c'est une démarche qui m'apparaît essentielle. C'est aussi sécurisant de relire, enfin de, si vous voulez, de vraiment de rafraîchir ses connaissances. Parce que, bon, on passe là de deux époques totalement différentes, hein, du Moyen-Âge, donc là au XXe siècle, et ça m'apparaît tout à fait nécessaire.
La Fontaine du Leu, c'est le titre de votre dernier roman paru en 2018. Et alors, vous le dédiez à beaucoup de femmes. Vous écrivez à celles qui ont beaucoup compté pour moi, à Mariana Leoni, mes deux grands-mères, et à Eugénie, ma grand-tante, simple paysanne, tellement attachée à la terre, à Jeanne, ma maman, si aimante et si dévouée à sa famille, à celle qui compte beaucoup pour moi aujourd'hui, là vous saluez, vos filles et vos petites filles. Daniel Jankowski, La Fontaine du Leu, c'est aussi un souvenir d'ancêtres paysans, donc, d'une certaine manière aussi.
Tout à fait, oui. Mes deux grands-mères, j'ai une grand-mère qui était bourguignonne, hein, de souche bourguignonne, l'autre de souche morvandelle. Enfin, c'est une histoire un petit peu plus compliquée que ça. En fait, elle venait de l'assistance publique et elle a été placée dans le Morvan. Donc, elle a eu une enfance relativement difficile. Hein, c'était très dur. Et je trouve que celle-ci, je ne l'ai pas connue, ma grand-mère morvandelle. Donc, j'ai connu l'autre grand-mère bourguignonne. J'ai surtout connue aussi ma grand-tante Eugénie. Et ce sont des femmes qui m'ont énormément marquée. Et je veux dire, elles m'ont aussi beaucoup apporté. Ce sont des leçons de vie tout à fait extraordinaires, je trouve. Parce qu'il y avait un amour de la terre, un respect de la nature. Enfin, c'était aussi des femmes qui étaient capables d'accepter beaucoup de choses, de supporter beaucoup de choses. Après, une fois que j'ai grandi, je les ai connues au cours de mon enfance, une fois que j'ai grandi, j'ai eu un regard totalement différent. Et là, j'étais pleine d'admiration et je me suis dit, est-ce que je serais capable de faire ce genre de choses? Peut-être pas.
C'est Daniel Jankowski qui nous accompagne aujourd'hui jusqu'à midi à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. On marque une première pause musicale et ensuite, le moment viendra de découvrir les héroïnes du dernier roman de notre invité.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Daniel Jankowski, vous êtes avec nous jusqu'à midi dans l'émission littéraire de Radion. Vous avez fait paraître il y a un an La Fontaine du Leu, c'est votre dernier roman aux éditions Gunten. Est-ce que je peux vous demander, Daniel, de vous présenter un peu ?
Oui, tout à fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, enfin pas de grand changement depuis la dernière fois. Donc j'étais professeure certifiée d'histoire géo dans une petite ville, disons industrielle, au Creusot, mais très proche quand même du Morvan, puisqu'on a Huchon, hein, juste à quelques kilomètres, la perle du Morvan. Donc c'est cette nature qui m'a toujours, je veux dire, énormément attirée. Voilà, donc j'ai fait une carrière d'enseignante en collège, et à la fin, j'ai trouvé que c'était quand même difficile. Bon, j'ai eu des moments de... Enfin, j'ai fait quelques pauses, si vous voulez. Une pause au cours de laquelle j'avais préparé un travail sur Jacques-Gabriel Bulliot, un travail de DEA, qui m'avait vraiment passionnée. Et bon, après, j'ai dû reprendre mon travail. Donc, voilà. Et c'était une époque où on est quand même absorbé par le quotidien. Hein. J'ai eu une vie familiale, des enfants. Et une fois arrivée à la retraite, ça a vraiment été merveilleux parce que j'ai pu me consacrer à l'écriture. J'ai pu écrire au calme, avec mes chiens, sans contrainte horaire. Donc, c'était vraiment, j'ai trouvé ça formidable. À tel point que l'écriture devient parfois une obsession. Si on a envie de se... Une fois qu'on a... l'idée d'un roman, on se coule dedans, enfin, on vit avec les personnages et c'est quelque chose qui peut parfois, il faut faire attention, ça peut devenir obsessionnel au point d'oublier le quotidien, d'oublier les autres. Et là, c'est un petit peu un défaut que j'ai, ça je le reconnais facilement. Et parfois, bon, faut faire attention de sombrer dans l'égoïsme le plus pur, hein, voilà.
Est-ce à dire, Daniel Jankowski, qu'un prochain roman est déjà en cours d'écriture ?
Oui, j'ai quelques idées, mais je ne les révélerai pas aujourd'hui parce que je suis superstitieuse et j'ai peur que ça me porte malheur, que je n'arrive pas au bout de mes projets. Parce que souvent, quand on part d'une feuille blanche, on a des idées et puis après, il faut avancer. Donc, c'est tout un travail de recherche, tout un travail d'écriture. Et c'est pas, il y a des jours où on ne peut pas écrire. C'est comme ça. Il y a des jours favorables et d'autres non.
Alors, La Fontaine du Leu, c'est le titre de votre dernier roman. Je pose, disons, l'intrigue de ce roman, dont l'action se situe pour une partie à notre époque. Oui. Une belle jeune femme brillante, elle a 28 ans, elle est architecte, elle est gracieuse, hein, belle silhouette, chevelure bouclée rousse. Elle vit à Paris, très belle situation, vie qu'elle partage avec un homme tout aussi brillant qu'elle, qui est avocat, une histoire d'amour entre eux assez forte, jusqu'au jour où cette jeune femme, tout d'un coup, décide, si je peux me permettre l'expression, de tout plaquer pour partir à la recherche de ses racines et notamment retrouver une ferme qui est... l'héritage familial. C'est bien cela, Daniel Jean.
Oui, voilà, tout à fait. En fait, cette jeune femme, elle a tout dans la vie, comme vous l'avez dit. Elle a une profession qu'elle a choisie. Elle s'est battue pour réussir, pour faire ses études. Elle a un compagnon tout à fait charmant, une vie de rêve. Mais au cours de son enfance, elle a retrouvé une photo qui était cachée soigneusement dans l'appartement de ses parents, les Verneuil, Pierre et Jocelyne Verneuil, de modestes fonctionnaires à la poste, hein, qui étaient heureux de s'être établis à Paris, de pouvoir offrir le meilleur à leurs enfants au niveau des études, au niveau des loisirs, tout ça. Et après, cette jeune femme va se poser des questions. Elle fréquente ses grands-parents du côté maternel, mais il y a un mystère familial au niveau du côté de son père, de Pierre Verneuil. Elle retrouve la photographie donc d'une jeune femme qui pose sur le seuil de sa ferme. Au dos, elle a un prénom, un nom et un prénom, Eugénie Verneuil, le lieu, La Fontaine du Leu et le village Saint-Cyprien en Morvan. Bon. Cette découverte va interpeller Gabrielle, naturellement. Elle pose des questions à son père et son père est fort mal à l'aise, alors que d'habitude, il a des relations relativement agréables avec ses enfants. Là, elle sent qu'il y a quelque chose, que son père se bloque, qu'il va se bloquer.
Et qu'il s'agace en plus lorsqu'elle cherche à en savoir plus sur la grand-mère ce domaine, parce que c'est domaine, même un beau domaine, dans le Morvan.
Dans le Morvan. Et son père lui répond de façon tout à fait négative, si vous voulez. Il lui dit que l'histoire de sa grand-mère ne lui apportera rien, que le Morvan ne lui apportera rien. Bon, donc c'est tout à fait négatif dans la vie de son père. C'est quelque chose dont il n'a pas envie de parler et qui lui fait mal, à la limite.
Lui ? a rejeté le Morvan pour une vie parisienne. D'ailleurs, vous expliquez qu'il y a eu aussi un phénomène identique à celui qu'a connu le père de votre héroïne. Un grand nombre de Morvandiaux, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. On parle souvent du Morvan comme étant un pays pauvre. Eh bien, la plupart a fait des études et s'est installée loin du Morvan. Et finalement, Gabrielle, elle, la fille, petite fille de cette grand-mère Eugénie Morvandelle, elle a envie de faire le mouvement contraire, quitter Paris pour aller dans le Morvan. Est-ce qu'il y a tant de Parisiens qui s'installent dans le Morvan, notamment de l'âge de votre héroïne, qui a moins de 30 ans?
Ça, je sais pas, mais c'est vrai qu'il arrive, enfin, il m'est arrivé de rencontrer des jeunes qui en ont eu assez de la vie trépidante en ville. Et bon, c'est un petit peu un retour à la nature. Bon, ils s'établissent dans le Morvan et voilà, ils ont une vie totalement différente.
Et vous vous identifiez un peu à Gabrielle? Vous êtes né plutôt en province?
Oui. Non, moi, ma vie est totalement différente. Disons, je ne sais pas si j'aurais pu, comme ça, m'intégrer aussi facilement dans un petit village. Non, c'est pas, ça n'a pas été mon cas. Moi.
Alors, c'est d'ailleurs la difficulté de Gabrielle. Donc, elle dit d'ailleurs qu'elle traverse une véritable crise existentielle. Oui. Et voilà que, comme ça, sur un coup de tête, avec sa jolie berline, elle prend la direction de la Bourgogne et plus précisément du Morvan. Elle part découvrir ce village de Saint-Cyprien au Morvan, qui existe ou l'avez inventé?
Là, attention, c'est un village, c'est imaginaire. Hein. C'est exactement comme le nom du domaine, c'est imaginaire.
Et pourquoi ne pas avoir retenu un réel village du Morvan?
Parce que, disons que j'étais beaucoup plus à l'aise avec des noms imaginaires, même si des villages sont présents géographiquement dans ma tête.
Alors on trouve, parfois il est question d'Avallon, mais beaucoup question de Lorme, de Saulieu ou Corbigny.
Oui, tout à fait. Donc là, les personnes qui connaissent bien le Morvan arrivent facilement à localiser le lieu où se déroule l'histoire.
Jeune Gabrielle, 28 ans, parisienne, arrive dans le Morvan et commence à enquêter d'une certaine manière. Elle fait un petit travail d'enquête.
Oui,
parce que de la part de son père, elle n'a aucune réponse aux questions légitime qu'elle se pose sur sa grand-mère.
Oui, tout à fait. Et Gabrielle va être déçue, si vous voulez, parce que déjà, elle connaît très peu la mentalité provinciale. Et là, elle va s'apercevoir que rien n'est facile. Bon, déjà, elle a l'idée d'aller à la mairie. Là, à la mairie, elle va découvrir avec stupéfaction que la ferme appartient toujours à son père, à Pierre Verneuil. Et bien sûr, elle va demander à visiter le domaine. Elle va demander à visiter cette ferme. Elle en a très envie.
Et donc, cette ferme, il faut bien le dire, c'est la Fontaine du Leu.
C'est la Fontaine du Leu. Donc, on va, si on lit l'extrait, donc on va comprendre.
Je vous en prie, Daniel Jankowski.
Puis elle déboucha sur une vaste clairière, délimitée à sa droite par un petit bois de hêtres dont les troncs s'élançaient haut dans le ciel, et à sa gauche par une grande prairie verdoyante s'étendant à perte de vue. C'était le domaine et les terres de sa grand-mère. Gabrielle était enfin arrivée chez elle. Les bâtiments de la Fontaine du Leu se détachaient au loin, tout au fond de cet espace grandiose et solitaire, perdu au milieu de nulle part, mais cerné par la présence farouche d'une nature sauvage, indomptée par l'homme. Sous l'effet d'une émotion intense, grandissante, la serrant à la gorge, elle approcha en roulant au pas, afin de mieux profiter de cet instant magique. Les larmes aux yeux, elle reconnut sans équivoque possible le grand corps de ferme du cliché photographique, découvert des années en arrière. Au centre de la cour, face à la maison d'habitation, elle remarqua une petite fontaine taillée dans la pierre, d'où jaillissait encore un jet d'eau puissant, retombant en cascade dans un bassin de forme ovale, juste devant elle. De fines sculptures décoraient le granit rose et faisaient songer à de la véritable dentelle. Lorsqu'elle descendit de l'audit, elle entendit le léger murmure de l'eau, délicat frémissement ou clapotis plus marqué, de précieux témoignages de vie, dans ce lieu apparemment déserté et abandonné par ses anciens propriétaires. Cette construction élégante et tout en délicatesse datait d'une époque fort ancienne. Faute de disposer de documents écrits sous la main, la jeune architecte pencherait en faveur du XVIe ou du XVIIe siècle. Maintenant, elle comprenait mieux le nom de ce lieu-dit, Mélele. Ne s'agissait-il pas d'une déformation linguistique ou encore d'une expression en patois ? Ce mot désignait le loup au Moyen-Âge. Gabrielle frissonna et ne douta pas un instant de la présence de cet animal à une époque reculée où il se serait risqué jusqu'à cet endroit solitaire et entouré de bois pour s'abreuver avec sa meute. En s'approchant de la fontaine, elle reconnut plusieurs silhouettes de loups gravées dans la pierre à différents endroits. Comme c'était étrange. Peu à peu, l'état de délabrement extrême de la grande longère de forme rectangulaire la frappa. Hélas, on ne lui avait pas menti. Elle tombait en ruine. Seuls les murs en pierre taillée et appareillés dans un beau granit rose avaient résisté aux outrages du temps, ainsi que les marches d'escalier devant la porte d'entrée demeurées intactes. Par endroits, une partie de la toiture s'était effondrée. On apercevait les chevrons et les pannes de la charpente en châtaignier. Livrées aux intempéries et aux caprices de la nature, des branches d'arbrisseaux avaient poussé au milieu des pièces de bois et jaillissaient ici et là pour s'élever vers le ciel. C'était plus catastrophique encore du côté des écuries et de la grange. Leurs portes géantes avaient été arrachées de leurs gonds, sûrement disloquées avant de disparaître dans la tourmente les jours de grand vent. Gabrielle prit peur devant l'ampleur des dégâts. Soudain, elle eut envie de pleurer et se lamenta sur le sort de la ferme du génie. Des morceaux d'ardoise brisés étaient éparpillés un peu partout sur le sol de la cour. Plusieurs d'entre eux gisaient juste à ses pieds, en compagnie de quelques crochets en fer tout rouillés. Par hasard, elle trouva une ardoise entière, se baissa pour la ramasser. Du bout des doigts, elle caressa la belle matière noble, lisse sur une face et irrégulière de l'autre quand elle la retourna, provenant des carrières d'Angers très lasées. D'une couleur changeante, parfois d'un gris sombre et soutenu, ou pratiquement noir comme la nuit, selon son exposition et la luminosité ambiante, elle luisait au soleil ou resplendissait sous la pluie, ce qui la rendait tellement plus vivante. Ces ardoises d'Angers avaient énormément été utilisées dans la région pour couvrir de nombreux bâtiments, depuis la maison d'habitation jusqu'à la ferme, avec ses dépendances, granges et écuries. Plus tard, elle apprendrait que c'était souvent le fruit de longues années de sacrifices pour ses paysans, départ des jeunes femmes abandonnant leur famille pour se louer comme nourrice à Paris, ou encore migration saisonnière des hommes, les galvachés, quittant leur village pour travailler avec leurs bœufs dans d'autres régions et gagner l'argent nécessaire à leur survie. Le Morvan était une terre très pauvre, et l'agriculture seule ne parvenait pas toujours à nourrir tous les foyers.
Merci Daniel Jankowski. Un extrait de votre roman intitulé « La Fontaine du Leu » est publié aux éditions Gunten. Vous nous avez lu là donc l'approche, la description de cette fontaine du Leu, donc un beau domaine, une vieille ferme morvandelle. Ce n'est pas qu'une longère, hein. Vous avez bien souligné effectivement la charpente en châtaignier, les ardoises en provenance des carrières d'Angers très lasées dans le Maine-et-Loire. Concernant ces fermes morvandelles, à un moment, votre héroïne, Gabrielle, découvre la pièce principale qui sert à la fois de cuisine, de salle à manger et même aussi de chambre parce qu'il y a des lits. Vous avez connu, vous, des vraies fermes morvandelles ?
Oui, tout à fait. Et puis en plus, moi, j'ai un lien un petit peu particulier avec ces fermes, ces longères couvertes en ardoise parce que mon père était charpentier ardoisier. Donc, je l'ai accompagné souvent sur certains chantiers. J'ai découvert de très belles fermes, parfois très, très isolées dans la nature, très pauvre aussi, parfois avec une seule pièce, les fameuses tomettes, le sol donc avec ces tomettes rouges, les poutres très, très obscures du plafond. Mais ces fermes ont un charme tout à fait particulier. Enfin, moi, j'adore ces grandes longères. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a laissé beaucoup de place toujours pour les animaux, pour la part de l'élevage, parce que le Morvan, je l'ai dit, étant une terre pauvre, il y avait quand même pas mal de polyculture. Donc on élevait aussi toutes sortes d'animaux et ces fameux bœufs qu'on attelait pour les galvacher. Donc voilà, la ferme en elle-même, la ferme de la Fontaine du Leu a de l'importance, mais Gabriel va s'apercevoir, et là on va toucher les mentalités paysannes, elle va s'apercevoir que ce qui compte beaucoup dans le village, pour les proches voisins de sa grand-mère, ce sont avant tout les terres. Et oui. La terre, c'est un élément important dans le domaine rural.
Et les terres suscitent les appétits.
Voilà. Et donc, c'est un côté aussi navrant de la nature humaine, tout au moins surprenant. Et on serait capable de faire des choses pas très belles au nom de la terre, pour avoir de la terre, pour récupérer la terre, pour éviter qu'elle ne soit laissée à des étrangers.
Ils sont nombreux, les personnages pervers, violents, alcooliques. Alors, je ne vais pas tout raconter de la vie de la grand-mère de votre héroïne. Mais la grand-mère de votre héroïne, c'est une femme admirable qui finalement, suite à une histoire d'amour durant l'occupation, se retrouve avec un enfant qui n'a pas de père. Enfin, qui n'a plus de père parce que le papa est décédé héroïquement. Mais je ne veux pas trop en raconter, mais je vous laisse le soin, Daniel, de dire ce que vous souhaitez.
Oui, bon, c'est vrai que Génie va être sacrifié, si vous voulez, son père est revenu blessé déjà de la Première Guerre mondiale, hein. C'est un infirme, il est mutilé, donc lui va se sentir diminué, mais malgré tout, il va s'accrocher, il va... faire fi de ses souffrances physiques.
Et puis,
physiques.
Il s'inscrit dans une fidélité des ancêtres à la terre.
Voilà,
Il faut faire prospérer la ferme. Il y a un certain sens de l'honneur. Et il y a l'attachement très fort au goût de l'effort et au travail de la terre.
Et au travail de la terre, oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, il va imposer des contraintes à son épouse, hein, Gladys. Ses parents l'ont forcé à se marier. Lui, il n'avait pas tellement envie de se marier. Bon, donc Génie, ils ont eu une première fille. Et ensuite, Antoine Verneuil va s'acharner. Il va imposer chaque année des grossesses forcées, on va dire, à sa femme, qui ne parvient pas à lui donner des héritier.
Et surtout pas d'homme.
Voilà, il n'aura pas de fils, et ça, c'est un drame. Et Eugénie en a conscience très jeune. C'est une jeune fille brillante, elle aime étudier, elle prend plaisir à aller à l'école, elle a rencontré Amélie Duban. Là, il y a deux mondes, si vous voulez, qui vont se côtoyer. D'une part, on a le monde paysan, très fidèle, très attaché à ses racines, et ensuite, on a le monde des notables. Amélie Duban est la fille du notaire, le notaire de Lorme, qui a aussi des terres, qui a une superbe maison, la Villa des Roses, hein, à Saint-Cyprien en Morvan. Et voilà, les deux gamines vont devenir amies, elles partagent les mêmes goûts pour la lecture, la littérature, on va dire. Et bon, là aussi, les différences sociales vont être marquées très vite. Parce que comme Gladys, la maman de Génie, est malade, qu'elle est souvent souffrante, hein, par ses grossesses, ses fausses couches à répétition, bon, bah, Eugénie va être sacrifiée. Elle va être obligée de rester à la ferme. Elle ne pourra pas partir au collège.
Elle est sacrifiée socialement.
Voilà, Amélie, elle peut partir. Et même Maître Duban avait proposé à Antoine Verneuil, qu'il apprécie beaucoup d'ailleurs. Hein. Il vient le voir souvent parce qu'Antoine est de bons conseils, bon, pour la terre, pour les animaux, pour l'élevage, tout ça. Il vient le voir souvent, mais il n'acceptera pas que Génie suive sa meilleure amie au collège.
Alors que Génie, tout de même, avait envie. Est première au certificat d'études.
Oui.
Donc elle a largement les capacités. Alors Eugénie, la grand-mère, elle est morte en 1975.
Oui.
C'est une jeune fille qui est née dans les années 1930.
Oui, environ. Oui. Elle aurait pu parfaitement aller au collège. Maître Duban assumait les déplacements. Vous voyez, tout le côté matériel n'était pas gênant pour elle. Mais non, son père va décider de la sacrifier. Elle va rester à la ferme. Et dans le fond, bah, Eugénie va faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, elle va s'adapter et elle va très vite aimer la terre, elle va très vite aimer son domaine, elle va aimer les animaux, elle aura une attitude tout à fait, je veux dire, responsable vis-à-vis des animaux. Très vite, elle aura pitié des grands chevaux de trait qui travaillaient beaucoup et elle a pris très jeune l'initiative de les soigner après le travail, de les brosser. Bon, vous voyez, il y avait un contact important et son père va comprendre aussi qu'elle aime beaucoup les animaux, il va lui offrir un chien. Bon, vous voyez, il y a tout ça, tout cet aspect-là.
Daniel, oui. Jankowski, au dénouement, à la fin,
oui, oui.
Gabrielle, donc la petite fille, va faire oui. renaître cette ferme. Je n'en oui. dis pas trop, hein. J'encourage
oui.
chacune
oui.
et chacun à aller découvrir le roman de notre invité. Mais oui. les chevaux vont à nouveau retrouver
voilà.
un
oui.
espace de liberté et de vie dans cette ferme du Leu, dans le moment.
Tout à fait, parce que Eugénie, déjà, elle ne supportait pas. Et même Antoine, qui était pourtant quelqu'un de très dur, les chevaux ne partaient pas à la boucherie. Les vieux chevaux, bon, on leur trouvait toujours un petit lopin de terre, hein, il n'en fallait pas beaucoup, on leur donnait un petit peu de foin l'hiver, bon, mais on les vendait pas pour la boucherie, on les gardait. Et là, c'est vrai, avec toutes ces terres, le domaine va se prêter fort bien à l'élevage de chevaux. Mais ça, c'est vrai qu'on ne va pas empiéter, c'est vraiment la fin du roman avec le renouveau de La Fontaine du Leu. C'est la troisième partie.
Daniel Jankowski est avec nous jusqu'à midi à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire, pour son dernier roman paru aux éditions Gunten, roman qui a pour titre La Fontaine du Leu. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve d'ici quelques minutes.
Thank you.
nous retrouvons notre invité aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion. C'est Daniel Jankowski qui nous accompagne pour son dernier roman paru aux éditions Gunten, La Fontaine du Leu. Alors La Fontaine du Leu, on l'a dit, l'histoire d'une très jeune trentenaire qui retourne dans le Morvan pour découvrir l'héritage immobilier aussi de ses grands-parents et notamment d'une formidable grand-mère disparue en 1975. Et cette grand-mère était une adolescente pendant l'occupation. Et en fait, Daniel Jankowski, dans La Fontaine du Leu, vous revenez sur des épisodes absolument remarquables de solidarité, d'entraide entre les populations paysannes, certaines fermes isolées qui ont été des fermes amies pour les maquisards cachés dans les forêts morvandelles.
Oui, tout à fait. L'occupation allemande a déclenché, si vous voulez, des réactions fort légitimes. Et lorsque les groupes de maquis se sont constitués, il y a eu environ 25 maquis de résistants, ce qui représentait à peu près 10 000 combattants de l'ombre. Et ces jeunes, certains jeunes, au départ, ont voulu échapper au STO, au service de travail obligatoire, éviter donc d'aller travailler en Allemagne. Ils ont eu besoin, évidemment, de la population paysanne, de ces paysans qui n'ont pas hésité donc à leur apporter ce qui était nécessaire à leur survie. Certains maquis ont vécu de terribles hivers en 43 à 44. Hein, le maquis Vauban, par exemple, est représenté dans la neige. Donc, le fait que ces paysans les aident était tout à fait essentiel à leur survie. Donc il y avait cette aide matérielle, le ravitaillement, mais il y avait aussi une collaboration. Lorsque il y avait des parachutages d'armes et de munitions, les paysans acceptaient évidemment d'aider les maquisards. Ils allaient récupérer les containers, hein, et donc là, disons que les traditions morvandelles étaient très utiles, puisqu'on utilisait encore les fameux attelages, les chars à bœufs. Évidemment, c'était très difficile pour les Allemands d'entendre quelque chose. Là, on pouvait les repérer très, très difficilement, et c'était très important pour les maquisards d'avoir cette aide paysanne.
Alors, voilà. Votre héroïne Eugénie et son amie et complice Amélie vont succomber au charme de beaux jeunes maquisards. Mais il y a un passage dans votre roman où vous décrivez, alors vous l'appelez vous le maquis Clovis,
oui, tout à
mais
fait.
En fait, c'est calqué oui. sur un maquis oui. dont le nom est resté
oui,
fameux
c'est,
en Morvan.
Oui, c'est un maquis qui est resté fameux en Morvan, mais j'ai pas envie, si vous voulez, de dévoiler son nom, parce que je trouve que les gens qui connaissent la région, tout ça, devineront facilement. Donc moi, je l'ai appelé le maquis Clovis. Et ce qu'il y a d'important au niveau du maquis, évidemment, c'est le chef. Hein. Donc là, c'est le capitaine Yvan. Et Eugénie va tomber amoureuse du capitaine Yvan. Tandis qu'Amélie, elle, tombera amoureuse de Louis, qui était le bras droit du capitaine Yvan. Et ce maquis Clovis va devoir se déplacer, changer plusieurs fois de campement. Hein, lorsqu'ils attaquaient les Allemands, on les repérait très vite. Et ensuite, c'était une question de vie ou de mort. Et il fallait se déplacer, changer de campement et éviter à tout prix d'être repéré par l'ennemi.
Puisque vous parlez de campement, Daniel Jankowski, peut-être pourriez-vous nous donner lecture de la description que vous faites du
Tout
campement
fait,
du maquis
oui.
Clovis.
Oui. Alors, perdu au fond d'un bois de hêtres et de chênes, juché en haut d'une plateforme rocheuse, il se composait de huttes de branchages de fortune, de quelques abris de bûcherons, assemblages disparates de troncs d'arbres entiers et de perches, recouverts de fougères séchées et de branches de sapins. Dans la semi-obscurité, Eugénie crut apercevoir une ou deux toiles de tente à côté des baraquements provisoires bâtis avec des matériaux de récupération, des tôles ondulées et de vieilles planches usagées. Les sentinelles avaient allumé un grand feu de menu branchage et Yvan fit asseoir Eugénie près des flammes pour la réchauffer. Prévenant, il lui offrit un grand bol de tisane de menthe poivrée qu'il lui mit d'office entre les mains. Sur un ton péremptoire, il lui ordonna de se reposer le temps que ses gars déchargent la précieuse cargaison. Elle l'avait bien méritée après cette longue marche nocturne. Une fois la tâche accomplie, un des jeunes maquisards apporta deux grands seaux d'eau pour abreuver les bêtes qu'il remplit plusieurs fois de suite en les plongeant dans un grand seau d'eau en bois. Eugénie sortit un sac d'avoine qu'elle avait rangé sur un côté du char et leur en distribua par pleine poignée. Ce n'était qu'une pause et ils n'avaient pas encore droit au repos complet. De nouveau, Yvan décida qu'il la reconduirait à la ferme, en compagnie de Louis. En les attendant, les autres gars rangeraient armes et munitions en lieu sûr, à l'abri de l'humidité. Eugénie les salua par de grands signes de la main. Elle marchait près de l'attelage, devenu soudain très léger, Yvan à ses côtés. Sans les consulter, Louis en avait profité pour grimper dans le char vide et se rouler en boule à même le plancher. Il dormait déjà comme un bienheureux.
Un extrait de La Fontaine du Leu de notre invité Daniel Jankowski, roman disponible aux éditions Gunten. Vous rappelez aussi d'ailleurs que le Morvan a effectivement généré un grand nombre de maquis hein, en raison de sa forêt où les Allemands n'osaient pas trop se risquer aussi. Puis elle est vaste et parfois un peu hostile, surtout en hiver. Vous rappelez par exemple le drame du village de Dalles-Place, hein, c'est du 26 au 28 juin 1944.
44 oui, hein. Oui.
Mais vous mentionnez aussi des villages qui ont été détruits par des bombes incendiaires. Et puis, il y a un passage très intéressant, Daniel Jankowski. Vous parlez de soldats allemands à l'Orme qui ont tué des hommes au Café du Nord. Ça, c'est authentique ?
Oui, non, là, c'est un épisode qui a été, disons, plus ou moins transformé. Mais le 12 juin 1944, il y a eu aussi la bataille de l'Orme. Hein. Et de toute façon, il y avait... toujours des risques pour les populations. Les Allemands voulaient faire une sorte de pression, si vous voulez, ils voulaient faire très peur, justement, en brûlant des villages, enfin les villages qui avaient aidé les maquisards. Ça va commencer au mois de mai, le 25 mai 44, par exemple dans la région de près de d'Anneau, c'est la commune de Menser. Il y a deux fermes dans un lieu dit qui s'appelait Vente Rouge. Les deux fermes vont brûler parce que les paysans avaient ravitaillé les gars du maquis Socrate. Et là, les pauvres fermiers vont tout perdre et on devra les reloger. Bon, là, c'était un drame. Bon, ça ne concernait, si vous voulez, que deux fermes. Mais lorsqu'il y a des villages entiers, il y a eu des villages martyrs. Hein, j'ai cité le 25 juin, donc Plancher et Montsauche. Et après, on va passer au drame. Hein. On parle de l'Oradour-sur-Glane du Morvan. Oradour, c'était le 10 juin 1944. Dans les places, ça va se passer le 26, 27 et 28 juin. Là, on va atteindre le comble de l'horreur, puisqu'il y aura quand même 27 personnes, 27 civils, des hommes jeunes, le curé du village, le maire, l'instituteur. Tous ces hommes vont être sacrifiés et le village sera brûlé. Il y aura des exactions aussi commises contre la population. On va piller, on va tuer des animaux, on va racketter dans les fermes, emmener tout ce qu'on peut emmener. Et donc, vous voyez, c'était quelque chose d'absolument terrible.
Et votre héroïne, la charmante et douce Eugénie, est capable de beaucoup de bravoure et d'héroïsme, puisqu'il y a un passage dans votre roman au cours duquel les maquisards donc, viennent, sans trop de crainte, mais avec prudence, à la Fontaine du Leu pour demander à cette ferme amie de lui prêter son char à bœufs parce qu'ils en ont besoin pour... ils ont besoin aussi de ravitaillement, très souvent, mais ils ont besoin de moyens de transport.
Oui, et là, il se trouve que Antoine, le père de Génie, Antoine Verneuil, est parti. Le vieil Ernest ne peut pas marcher très loin dans la forêt. Et là, il faut aller jusqu'à la Comboura pour récupérer ce qui a été parachuté par les Anglais. Et Eugénie ne va pas hésiter une seule minute. Elle a l'habitude de conduire les bœufs et elle va faire preuve d'héroïsme en quelque sorte parce que c'était quand même quelque chose de dangereux. Donc je vous lis le passage. Qu'à cela ne tienne, j'irai, moi, le coupa Eugénie, très sûre d'elle. Les bœufs me connaissent et m'obéissent depuis que je suis toute gamine. Ernest m'a appris à les faire travailler. Ton père va me tuer lorsqu'il apprendra que je t'ai fait courir autant de risques, lui rétorqua Yvan lucide. Après cette mésaventure, il n'acceptera plus jamais de nous donner un coup de main. Tu le connais mal. Antoine n'est pas rancunier comme ça, reprit Eugénie agacée. Tu sais bien qu'il déteste les boches qui ont gâché sa vie et l'ont rendu infirme en 18, sans parler de la mort de son frère Jules, qu'il aimait beaucoup. Il a un compte à régler avec eux, de toute façon. Ne demande pas à ma mère, elle refuserait de me laisser partir. Mon père m'a déjà fait confiance pour de petites missions du temps du chef Dédé, ajouta habilement Eugénie pour le fléchir. Je t'ai également porté quelques messages dans les bois, confiés par la postière de Clamcy. C'est aussi risqué que de conduire une paire de bœufs. Pas tout à fait, ma belle, lui rétorqua tout de suite Yvan. Les boches verront bien qu'on ne transporte pas un chargement agricole en pleine nuit. Ils ne feront pas de quartier si par malheur ils nous surprennent. Tu n'imagines pas qu'on va emprunter les routes où ils circulent d'habitude, se défendit Eugénie, l'esprit combatif. Tu les as déjà vus, les boches, s'enfoncer dans les sentiers au beau milieu des bois quand il fait nuit noire? Non, je ne crois pas. Sans compter que je connais la forêt aussi bien que mon père. Viens avec moi, on a assez perdu de temps en bavardage. Eugénie siffla Tommy qui accourut sur le champ. Il n'était plus question d'échanger ses vêtements sales contre des propres, mais elle enfila seulement une nouvelle paire de bottes en caoutchouc, plus haute que les siennes. C'était une précaution qui lui permettrait de marcher plus facilement dans la forêt, à travers les cendres parfois boueuses ou pour éventuellement se protéger d'une morsure de serpent. Lorsqu'elle quitta la ferme en compagnie des maquisards de Clovis, elle ne se doutait guère que leur expédition nocturne se prolongerait au-delà de 3 heures du matin. Non seulement Eugénie s'était montrée courageuse, mais d'une efficacité aussi probante que son père Antoine. Apparemment très calme, avec beaucoup de sang-froid, elle avait dirigé les bœufs en leur chantant une sorte de mélopée lente, empreinte de mélancolie, comme le faisait son grand-père Victor, pour les conduire jusqu'à la Combora. Yvan avait remarqué qu'elle ne les avait pas frappés une seule fois avec l'aiguillon, le grand bâton qu'elle tenait pourtant à la main, les encourageant surtout dans les passages difficiles ou étroits, en les guidant avec précision, d'une voix ferme et rassurante. Personne ne comprenait les paroles chantonnées par Eugénie, car elles s'exprimaient en patois morvandiaux. Seuls les noms des bœufs, Nobio et Barbançon, était intelligible, revenant sans cesse sur les lèvres de la jeune fille et se mêlait à son chant. Sur les ordres de leur chef, les maquisards s'étaient dépêchés de remplir les chariots des containers bourrés d'armes et de munitions, puis l'avaient recouvert d'une bâche solide pour les dissimuler le plus possible. Pour repartir, Eugénie avait été obligée d'effectuer une manœuvre compliquée avec ses bêtes. Si elle avait été plus logique, elle aurait dû prévoir de faire demi-tour avant qu'on effectue le chargement de la charrette. Maudissant alors son inconscience, elle trembla à plusieurs reprises, car elle craignait d'embourber l'attelage alourdi de son fardeau, en raison de l'instabilité du sol.
Merci Daniel Jankowski pour la lecture de ce passage. Oui, cette mélopée bizarre, c'est ce qu'on appelle le thiolage.
Oui, c'est sans doute
du patois morvandiaux.
Tout à fait, oui. Et c'est quelque chose qui était utilisé par les galvachés donc pour conduire leurs bœufs. Et les bœufs morvandiaux étaient réputés justement pour être capables de traîner de lourdes de charges, de débarder dans les bois, dans des sentiers particulièrement difficiles lorsqu'ils étaient bien guidés. C'était tout un art que celui des galvachés. Voilà.
Complicité entre l'homme et l'animal, et c'est particulièrement touchant. Le temps passe très vite, on arrive presque au terme de l'émission. Alors on a bien compris que cette jeune Parisienne dans les années 2018 qui redécouvre cette fontaine du Leu va bien sûr découvrir qui était sa grand-mère, disparue en 1975, grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Et dont dont son père ne voulait pas parler. Alors bien sûr, elle va. Alors il y a toute. Bien sûr, elle trouve du travail à l'homme. Elle rencontre différents hommes. Elle a des
Elle a beaucoup de problèmes avec les hommes.
Oui, elle va avoir une vie sentimentale moderne, on va dire.
Compliquée, parfois.
Compliquée, oui. C'est vrai que son premier ami, l'avocat parisien Bruno Servin, va la harceler. Il ne veut pas comprendre que leur liaison est terminée. Bon, ensuite, elle va rencontrer un jeune ingénieur dans le bâtiment. Bon, ça ne va pas marcher entre eux. Et finalement, c'est quelqu'un qui est hors du commun, on va dire. Un jeune homme qui a choisi de tout abandonner. Lui, il vient de Lyon. Sa famille est d'origine polonaise, ce sont des émigrés polonais, et lui a choisi le retour à la nature. Il veut vivre comme ça dans le Morvan, au gré de ses fantaisies. Voilà, il refuse toute contrainte.
Et il a plein d'idées pour l'avenir.
Tout à fait.
Des projets. Pour rendre la fontaine d'Uleu attractive et qui puisse nourrir ce couple. Mais je n'en dis pas plus.
Voilà,
mais
ça se termine
de manière
bien,
agréable et sympathique.
Oui, tout à fait. Alors que c'est vrai que la fin de vie d'Eugénie a été particulièrement difficile. Elle a été mariée, comme ça se passait souvent à cette époque, par son père de façon...
Mariage arrangé, parce qu'il fallait qu'une fille mère ait un mari...
Elle est un mari et c'était des conditions tout à fait... c'était vraiment très dur.
Mais vous rappelez effectivement aussi les difficultés d'être femme à une certaine époque,
dans
le milieu rural, qui n'était pas tout de même toujours très ouvert.
Oui, ce n'était pas quelque chose d'évident. Les femmes étaient souvent soumises donc, à l'homme, notamment à leur père. Mais elles étaient capables aussi de beaucoup de courage. Eugénie, là, le passage que j'ai lu, Eugénie va le démontrer à plusieurs reprises. Elle sera capable de risquer sa vie, de faire de grandes choses. Et ça, c'est aussi une belle leçon de vie, malgré tout.
Merci Daniel Jankowski d'être venu ce matin devant le micro de Wagon Livre pour évoquer votre dernier roman, dont je rappelle le titre, La Fontaine d'Uleu, c'est aux éditions Gunten, l'histoire de cette jeune femme, Gabrielle, qui découvre bien des secrets enfouis au plus profond de la forêt morvandelle.
Voilà,
merci Daniel d'être venu jusqu'à nous. Et je donne rendez-vous à toutes celles qui nous écoutent samedi prochain, toujours à 11h sur Radion 90.5 dans Lyon ou aux quatre coins de la Bourgogne, de France et du monde sur le www.radion.fr. Et bien sûr, si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez sur le site d'archives de Wagon Livre via Internet. Daniel, c'est fantastique, www.yannickpetit.fr.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli aussi gentiment, Yannick. Ça a été un plaisir de parler de mon livre. C'est vrai que le temps passe vite et on ne peut pas tout raconter parce que certains mystères, certains secrets donc, contenus dans le livre doivent demeurer entiers.
Absolument. Et chaque émission Wagon Livre est une invitation à aller découvrir les livres de nos invités. Encore merci Daniel Jankowski. Merci à vous toutes et tous de votre écoute. Excellent congé de fin de semaine et rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir. Thank you.